Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, ses associations et ses structures. Aujourd'hui, nous recevons Étienne Chaubernard, breakdancer manceau, membre du collectif Légitime Obstruction. Étienne Chaubernard donne aussi des cours de breakdance pour les jeunes talents. Puis nous serons avec les deux nouveaux présidents de Le Mans Sarthe Aviron qui nous présenteront ce sport et les pistes qu'ils compte approfondir pour dynamiser la pratique de l'aviron au Mans. On commence sans plus attendre avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Entre le festival Connexion, le festival secondaire et le tremplin Éclosion, le hip-hop connaît une certaine dynamique en Sarthe. Et qui dit hip-hop dit breakdance. En Sarthe, l'un de ses meilleurs représentants, c'est Étienne Chaubernard, dit Chaubert, qui fait partie notamment de la Légitime Obstruction, un collectif présent sur des compétitions de haut niveau. Bonjour Étienne Chaubernard.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'abord de votre parcours? Comment est-ce que vous êtes entré dans le breakdance?
Eh ben, déjà, merci de m'accueillir dans le studio.
Eh ben, c'est un plaisir.
Donc, en fait, moi, à la base, j'étais pas du tout spécifiquement attiré par la danse, mais il y a eu des films de danse qui sont apparus il y a quelques années, les Step Up, les Sexy Dance, je connaissais pas du tout. Mais quand j'ai commencé à regarder ces films-là, tout à fait par hasard, en fait, j'ai vraiment été touché par la danse hip-hop. Mais les différentes disciplines de la danse hip-hop étaient représentées, donc j'avais pas spécialement une vision précise de ce que c'était la danse hip-hop exactement. Et en fait, un jour, mon père...
Est-ce qu'il y a différentes disciplines? Pardon, je vous interromps.
Il n'y a pas de souci. Juste, oui, en fait, il y a différentes disciplines qui sont un peu méconnues du public parce que dire danse hip-hop, c'est plus général et ça permet aux gens de tout de suite identifier plus ou moins ce que c'est. Mais en fait, dans les danses hip-hop, il y a plusieurs danses, dont le breakdance.
Et donc vous allez dire que c'est à travers votre père que vous êtes entré dans le breakdance, c'est ça?
Ma mère aussi, qui voyait que j'avais toujours apprécié. J'appréciais danser, mais j'étais pas spécialement attiré par la danse. Et ma mère savait pas trop comment faire parce qu'elle voyait que j'allais sur les mains, je dansais. Donc en fait, à un moment, elle a essayé de me trouver, on va dire, un sport ou une activité qui pouvait me correspondre. Donc elle m'a mis à la gymnastique. Ce qui était à l'époque le meilleur compromis parce qu'elle voyait que j'aimais beaucoup faire des roulades, monter sur les mains, bref, j'arrêtais pas de bouger un peu partout. En fait, le breakdance vraiment est apparu après et en fait j'ai commencé à en parler en disant que les danses hip-hop me plaisaient, mais voilà, je savais vraiment pas où je me dirigeais. Et en fait, un jour, mes parents voient qu'il y a un événement qui s'appelait un battle qui s'appelait Le Mans Hip-Hop Arena. C'était en 2009 si je dis pas de bêtises. Mon père m'a emmené voir cet événement. Et en fait, à peine je suis arrivé dans la salle que déjà j'entendais ce qu'on appelle les breakbeats, qui viennent essentiellement de la soul, de la funk, notamment James Brown. Et en fait, déjà le son, pourtant j'avais déjà entendu de la funk avant, mais là je sais pas, j'entre dans la salle et je suis un peu transcendé par ce rythme de batterie là qui vient te mettre une pulsion au cœur, et j'étais déjà un peu dans l'ambiance. Et après, une fois que j'ai regardé les gars danser, aller au sol, faire des jeux de jambes, monter sur les mains, tourner, etc., je n'ai pas lâché une seule seconde, j'ai pas décroché une seule seconde, quoi.
C'est intéressant que ce qui vous ait marqué autant dès le début, du coup, c'est la musique, en fait, parce que ce qui est primordial dans le breakdance, effectivement, c'est le rythme, c'est ça?
En fait, c'est vraiment un rythme qui est assez particulier. On retrouve toujours un peu ce rythme de batterie qui fait poum poum ta 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 poum ta. C'est assez entraînant. Et en fait, il y avait la musique, mais il y avait aussi quand même l'ambiance. De voir des gars, ils sont en cercle, ils dansent, ils vont au sol, ils font des moves que j'ai jamais vus. Et déjà, dans ma tête, de se dire, ah, mais ce qu'ils font là, c'est autorisé un peu. Ils vont au sol, ils font des trucs, alors que ça pourrait être dans les codes de la société. C'est pas forcément au premier abord ce qui est vu comme normal. Et donc déjà il y a tout ça, et une fois que j'ai vu cette notion de battle, les gars ils faisaient un dialogue, en fait il y avait l'ambiance aussi de cette espèce de tension dans les battles qui m'a vraiment fait kiffer.
Décrivez-nous un peu ce que c'est une battle, en fait, comment ça marche.
Alors un battle, en fait, et là c'est l'origine des battles, en fait ça se fait par groupe, on dit les crews, et donc ils vont s'affronter, et en fait il va y avoir un mélange soit de combinaisons à plusieurs, soit de solo. Là en fait il y a un DJ. Il va mixer en direct, et en fait, les danseurs ne connaissent pas la musique à l'avance, et ils vont devoir donc appliquer les passages qu'ils ont préparés, mais avec une part d'impro. Il y a toujours
d'accord,
une part de
c'est
freestyle.
C'est pas de la totale improvisation pour autant.
Non, c'est pas de la totale improvisation. Souvent, il y a quand même la plupart des danseurs de break qui préparent quand même des enchaînements. Mais l'idée est que, vu qu'ils connaissent pas la musique, ils vont devoir adapter à chaque fois, parce que s'ils appliquaient juste en exécutant, ils seraient pas, ça serait pas des danseurs, ça serait vraiment de l'exécution. Alors que là, ils vont devoir se connecter à la musique qu'ils vont entendre sur le moment, et ils vont réinterpréter leur enchaînement, sachant que ça sera jamais la même chose. Il y a forcément des choses qui vont être écrites un petit peu à l'avance, mais la plupart du temps, les danseurs vont aussi se laisser porter par ce qu'ils ressentent sur le moment, et du coup, il y a toujours une part d'impro.
Et quand vous dites vous adapter à la musique, c'est juste une question de rythme, du coup, c'est juste s'adapter au rythme, ou ça peut être encore autre chose
Bah, c'est essentiellement le rythme, mais en fait, une fois que le danseur il passe, l'idée c'est qu'il marque ce qu'il veut. Forcément, il va être sur le rythme, donc sur le rythme de la batterie, etc. Mais après, s'il veut marquer, on va dire marquer les accents, s'il veut marquer le saxophone, s'il veut anticiper, par exemple, le DJ qui va faire un bruit de scratch à ce moment-là, en fait, c'est le danseur qui va décider tout ça, mais qui va aussi se laisser porter par son ressenti. C'est ça le plus dur à faire, en fait, c'est de réussir à avoir l'équilibre entre poser ses mouvements déjà préparés, mais tout en les calant sur le son et sur ce qu'on va ressentir.
Et d'ailleurs, du coup, j'imagine qu'il y a des codes particuliers dans le breakdance, des pas de danse, entre guillemets, qu'il faut connaître. Mais j'imagine aussi que chacun a son propre style. Comment est-ce qu'on joue là-dessus, en fait?
Alors oui, c'est vrai qu'il y a des bases, que tous les breakers sont censés plus ou moins avoir. En général, un passage de break, on commence par les top rock. Donc les top rock, c'est les pas de breakdance debout. Et ça va pas être la partie principale. Ça va vraiment être la partie, on appelait ça même avant les pas de préparation, parce qu'en fait ça prépare le breaker à aller au sol. Et une fois qu'on va au sol, on va retrouver beaucoup ce qu'on appelle les footworks, en fait c'est les jeux de jambes, et après on va enchaîner avec d'autres combos. Ensuite il peut y avoir donc les freezes, c'est tout ce qui est figure sur les mains, sur la tête, sur l'épaule, mais bloqué. C'est pour ça qu'on a appelé ça d'ailleurs les freezes. En fait, on vient geler le mouvement, et en général, c'est souvent utilisé pour s'arrêter sur un accent en particulier. Et en général, c'est ce qui peut, disons, faire un impact auprès des autres danseurs et on va dire gagner des points. Enfin, c'est souvent un mouvement qui peut renverser la balance dans les battles. Et après, dernière catégorie, on a les power moves. Les power moves, c'est les figures les plus acrobatiques, disons, un peu les plus impressionnantes du breakdance. C'est ce qui va être tourné sur la tête, tourné sur le dos, tourné sur la main. Donc c'est vraiment la catégorie de figure qui est, on va dire, la plus dure physiquement et techniquement parlant.
Et est-ce qu'il y a un style Chaubert-Nard, alors? Est-ce que vous sauriez le décrire?
Alors, le style Chaubert, en fait, c'est vrai que je me suis... moi, j'ai eu beaucoup de facilité, mais aussi une... comment dire? J'ai été très... j'ai vraiment... grave kiffé les footwork, les jeux de jambes. J'avais une créativité assez facile qui se mettait en place avec les footwork. Je me suis discipliné très vite. Et en fait, c'est vrai que dans la communauté break, on m'a beaucoup associé au footwork parce que j'ai vraiment, perfectionné. Je me suis vraiment approfondi dans la discipline et j'ai voulu essayer de trouver des concepts soit originaux, soit techniques. Et c'est ce qui fait que après les gens ont reconnu mon style parce que j'étais vraiment très investi là-dedans.
Et à mesure que vous approfondissiez votre technique, votre niveau, vous vous êtes mis à participer à un collectif, un crew, donc la Legitime Obstruction. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Qu'est-ce que c'est en fait?
Alors le crew Legitime Obstruction, c'est un crew qui a été fondé en 2003, par ce que je vais appeler l'ancienne génération, qui nous a formés, moi et les membres du collectif actuel. Et donc c'est un collectif qui est un collectif de compétition. C'est un crew de b-boy, ce qu'on appelle breaker boy. Et donc c'est un crew qui a représenté en France, à l'international, qui a été donc champion de France en 2007 et champion de France, du coup, nous, en 2022, mais avec la génération actuelle. Et donc, c'est le Battle of the Year, qui est un des plus gros battles en groupe. La notion de crew, en fait, en breakdance, elle est très importante parce que ça fait partie des valeurs de la culture hip-hop de représenter un groupe. Donc là, c'est que des groupes de danseurs, mais à l'époque, c'était même un mélange entre les graffeurs, les DJ, les rappeurs, les danseurs. Il y avait vraiment le mélange de toutes les disciplines. Aujourd'hui, les disciplines sont toujours reliées. reliés, les piliers du hip-hop sont toujours reliés, mais sont moins présents.
Alors le collectif donne aussi des cours, des stages de breakdance. Étienne Chaubernard, vous donnez vous aussi des cours à l'école Ketsen au Mans. Le breakdance trouve un engouement auprès de la jeune génération et quel conseil est-ce que vous donnez aux débutants ?
Alors effectivement, Légitime Obstruction est très présent sur le territoire. On est plusieurs à donner des cours, notamment Monsieur Sekou Diagouraga et Monsieur Paul Lebon qui donnent des cours. Donc il y a des cours au spot, il y a des cours à la MJC Ronceret, il y a des cours aussi sur les communes comme Brette-les-Pins. Donc effectivement, j'ai commencé cette année à donner des cours à Ketsen. Et c'est vrai que j'ai vu avec le breakdance présent aux Jeux Olympiques, on a vu quand même une demande d'inscription. On a eu pas mal de demandes d'inscription, donc c'est vrai qu'il y a eu un engouement et que l'image du breaking, ce qu'on peut dire du breaking, du breakdance, ça a été mis en avant grâce aux Jeux Olympiques. Les conseils que je donnerais, c'est que faut pas, parce que souvent les enfants sont impressionnés par les figures et ils voudraient débloquer ça très rapidement, mais des fois ils se rendent pas compte toujours de la difficulté, et sachant qu'il faut pas oublier le côté de la danse aussi, ce qui fait que quand je transmets le breakdance, j'apprends les bases, mais j'apprends aussi évidemment la notion de rythme, la notion du fait qu'on c'est une danse et que c'est pas uniquement le côté performance physique. Je sais pas comment dire, faut pas passer les étapes trop vite parce qu'en fait, faut vraiment prendre le temps d'apprendre les bases, parce que sinon on se retrouve confronté à un mur et du coup on est déçu parce qu'on n'arrive pas à faire des figures qui sont physiquement très dures. C'est pour ça que je donne quand même je donne un âge minimum pour commencer. En général, je commence à partir de 8 ans.
Alors vous avez mis 15 ans à parfaire votre maîtrise. Est-ce que vous estimez qu'il vous reste encore des choses à apprendre ?
Ah oui. Pour moi, c'est jamais fini d'apprendre. Pour moi, on est en apprentissage constant, hein, et que ce soit en breakdance comme dans la vie en général. Je suis loin d'avoir fait tout ce que je voudrais dans ma carrière. Je pense qu'il y a encore de belles années à faire beaucoup de choses, et notamment à apprendre encore de personnes qui ont des connaissances. On est sans cesse dans la transmission et l'échange. Pour moi, c'est même la... C'est un des piliers de cette culture, hein, c'est d'être dans l'échange. Quand on est là et qu'on est en cercle et qu'on est en train de danser entre nous, c'est justement pour échanger. Il y a la partie défi, la partie compétition, forcément, mais on est aussi là pour échanger, partager. Et donc, pour moi, on est constamment en apprentissage et voilà.
Et cette notion de partage a été particulièrement illustrée l'année dernière, parce que vous l'avez mentionné d'ailleurs, la discipline est devenue olympique durant les JO de Paris 2024, après seulement 50 ans d'existence. C'est assez peu en fait, hein. Enfin, c'est très rapide quand on y pense. Qu'est-ce qui explique cette reconnaissance aussi fulgurante pour vous, Étienne Chaubernard ?
Pour être honnête, je pense que le breakdance, ça fait beaucoup parler de lui ces dernières années, et que... Il y a eu peut-être plus de visibilité sur la difficulté des figures de notre discipline. Les gens ne se rendent pas toujours compte, comme vous avez dit, ça fait 50 ans que le hip-hop existe. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méconnaissent encore le breakdance, qui ont du mal à s'imaginer ou qui ont une image du breakdance qui est erronée. Et alors que quand tu te rends compte tous les paramètres qu'il y a à prendre en compte quand tu fais un battle, et même toutes les heures d'entraînement qu'il faut pour débloquer certaines figures, je me dis, mais sur ce plan-là, sur le plan de la performance physique, je trouve que ça avait sa place au JO. Maintenant, pour moi, et c'est mon avis personnel, ça reste un art et une danse, et donc il faut vraiment pas oublier ce côté-là, parce que ça aurait pu, c'est ce qu'on avait peur avant quand on a vu l'arrivée au JO, c'est qu'on avait peur que ça dénature la discipline.
Et alors pour finir, une prochaine compétition à suivre pour vous et pour la Légitime Obstruction ?
Alors là, on a plusieurs compétitions qui sont en vue. La prochaine, ça sera donc le battle d'Hip-Hop Session. Hip-Hop Session qui est un festival à Nantes qui se passe au lieu unique. Et cette année, ils font leurs 20 ans. Et en gros, donc ils ont sélectionné 20 équipes qui vont s'affronter. Ils en sélectionneront 8 qui après s'affronteront en battle. Et les 4 qui ressortent iront affronter les 4 équipes invitées le soir. Donc ça, c'est notre prochaine grosse date. Et ça sera le 17 mai à Nantes au lieu unique.
Eh bien, je vous remercie Étienne Chaubernard. Et merci d'avoir été avec nous dans Sport en Sarthe.
Et merci beaucoup pour l'accueil et merci.
Radio Alpa, l'alternative.
Vous êtes toujours dans Sport en Sarthe et nous sommes à présent avec Le Mans Sarthe Aviron. Le Mans Sarthe Aviron, le seul club d'aviron en Sarthe, s'est doté d'un nouveau duo de présidents qui compte bien développer davantage le club. Parmi leurs objectifs, faire davantage partie du paysage sportif du Mans, grimper de division au niveau compétitif et changer de modèle de fonctionnement qui repose essentiellement pour le moment sur une équipe de bénévoles. Bonjour Yvon Godard et Frédéric Rougier.
Bonjour Charlie.
Alors vous êtes donc, vous êtes donc les deux coprésidents de Le Mans Sarthe Aviron. Alors d'abord partons de la base. Qu'est-ce que c'est Le Mans Sarthe Aviron?
Le Mans Sarthe Aviron, c'est un club, j'oserais dire, un peu historique de la ville du Mans, puisque c'est sans doute l'un des plus anciens clubs, hein, 130 ans d'existence, et pour autant pas suffisamment connu aujourd'hui pour les Manceaux et les Sartois. Donc c'est un club qui a, par le passé, produit un certain nombre de grands rameurs, voire de champions de haut niveau. En dernier lieu, c'était Benjamin David qui a concouru en équipe de France d'aviron. Et plus récemment aujourd'hui, c'est Hugo Barbotin, en para-aviron, qui lui envisage d'entrer en équipe de France aviron et se prépare pour les JO de 2028.
On peut préciser peut-être aussi d'ailleurs ce que c'est que l'aviron, parce que je pense que la plupart de nos éditeurs ont en tête un bateau, quelque chose qui vogue sur l'eau, mais maintenant, comment le différencier par exemple de la barque ou du kayak?
Alors effectivement, c'est très différent de la barque ou du kayak. Ce sont des bateaux très fins, dans lesquels d'ailleurs on ne peut pas mettre les pieds au fond du bateau au risque de passer au travers, donc c'est des bateaux très profilés. Alors il existe plusieurs sortes de bateaux, on a ce qu'on appelle des skiffs, où on est tout seul sur le bateau. Déjà, on rame dans le sens opposé, puisqu'on est dos à la direction. Donc, ça demande aussi un peu de dextérité sur le plan d'eau, surtout quand on a un plan d'eau qui n'est pas droit. Donc, on a des bateaux où on est tout seul, ce qu'on appelle des skiffs. On a des bateaux où on est en double. Et en double, on peut ramer soit chacun avec ce qu'on appelle une aviron ou une pelle, dans le jargon. Hein, donc, c'est des grandes pelles quand il n'y en a qu'une. Ou deux pelles, ce qu'on appelle en couple. On a chacun deux pelles, une dans la main droite, une dans la main gauche. C'est en double. Ça peut le faire aussi en quatre et ça peut le faire en huit.
Et donc on est dos à la direction, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas là où on va en fait?
Non, effectivement, seul le barreur, alors il y a des bateaux qui sont barrés ou d'autres qui ne sont pas barrés, quand on a un barreur, le barreur lui il voit où on va, mais les rameurs eux sont toujours dos à la route.
Mais alors comment on fait pour se diriger dans ce cas?
Ah ben, il faut avoir une bonne maîtrise du plan d'eau au travers de repères qu'on prend sur la berge, notamment pour ce qui nous concerne, et puis avec la force que vous exercez dans vos pelles, ben, vous arrivez à diriger le bateau plus ou vers la droite ou vers la gauche si besoin de rectifier. L'important, c'est quand même de ramer droit, puisque dans toutes les compétitions se font toujours en ligne droite.
D'accord, il n'y a pas de circuit avec des virages, des choses comme ça.
Alors, sauf quand vous faites des compétitions. Alors, dans les compétitions officielles, c'est forcément en ligne droite. Par contre, si vous faites des sorties, par exemple, mer ou des sorties rivière, ce qu'on appelle tête de rivière, sur 6 km, là, à ce moment-là, il y a effectivement une bouée où il faut faire le tour, puisqu'en général, on a toujours un aller-retour à faire.
Et alors quand on fait de l'aviron, du coup, c'est forcément pour le côté sportif ou peut aussi y avoir un côté un peu promenade, un peu détente? Ça se passe comment?
Eh bien, en ce qui concerne notre club, c'est un peu partagé. Certains, notamment à partir de 12 ans, viennent y faire de l'aviron pour la compétition et se forgent le mental, le physique et la technique pour devenir compétiteur. Mais ceci dit, c'est aussi une bonne porte d'entrée pour découvrir l'aviron de façon loisir, comme l'on dit.
Alors, en tant que nouveau président de l'association, vous vous placez plusieurs objectifs, notamment faire davantage connaître l'aviron au Mans. Ça pourrait passer par quelles actions, par exemple?
La première a été de rencontrer les élus de la ville, et notamment Stéphane Le Foll, puisque l'on souhaite...
Le maire du Mans, du coup.
Le maire de la ville du Mans, oui. On souhaite faire baisser ce fameux barrage de l'enfer qui aujourd'hui constitue un barrage, on peut le dire, puisqu'il nous empêche d'aller ramer jusqu'au port. Et ramer jusqu'au port, c'est ramer au pied de la muraille, là où on pourrait être très visible. Le dossier est en cours d'étude entre le département, la ville, la préfecture, et on attend la suite.
Oui, et puis l'avantage aussi, au-delà d'être visible, ce qui est effectivement un des objectifs de notre mandat pour l'Olympiade en cours, là jusque 2028, c'est d'avoir un plan d'eau qui est assez large et qui permet aussi d'organiser, comme ça s'est fait dans le passé pour ceux qui ont pu y participer, ce qu'on appelait des sprints, où on faisait des courses depuis le port jusqu'à peu près au barrage. ce qui permettait de faire quelques courses parce que le plan d'eau est droit. Alors il y a les ponts à passer, mais en dehors des ponts, c'est plutôt assez sympa pour ramer.
Alors c'est un club qui a 130 ans, 113 licenciés, ce qui est plutôt conséquent.
115 aujourd'hui.
115 aujourd'hui. Pour autant, vous fonctionnez uniquement avec des bénévoles. Alors d'abord, quel est leur rôle à ces bénévoles?
Alors les bénévoles sont aujourd'hui sur plusieurs domaines, à commencer par les présidents. Nous avons une équipe de comité de direction, de trésoriers, secrétaires, tout ce qui constitue un bureau pour le bon fonctionnement du club. Mais nous avons aussi des bénévoles qui s'occupent des sorties pour les loisirs, des contacts avec les autres clubs nationaux, certains qui s'occupent de nettoyer, de réparer le matériel, certains autres qui ont une fonction d'entraîneur pour pouvoir manager les jeunes, les moins jeunes, mais sur des sessions d'entraînement, et les accompagner lors des compétitions. Et puis d'autres, beaucoup plus nombreux, pour assurer la sécurité, notamment sur le ponton, puisqu'une séance d'aviron se fait toujours en sécurité, avec une personne pour surveiller, capable d'intervenir avec un bateau de sécurité en cas de souci.
Et donc actuellement, vous avez cette équipe de bénévoles et vous envisagez de prendre un ou plusieurs salariés. Alors, dans quels objectifs?
Alors effectivement, aujourd'hui, le bénévolat a ses limites puisque ça dépend effectivement de la disponibilité des personnes, d'une part, et puis aussi, il y a une question de compétences. Donc, pour ce qui est de la partie compétition à terme, on aimerait bien avoir une personne qui soit effectivement brevetée, entraîneur, pour pouvoir accompagner nos jeunes au meilleur niveau, puisqu'on a effectivement un gros programme ambitieux de montée en puissance de nos équipes compétition. Et puis on cherche aussi une personne à terme pour pouvoir faire de l'animation de façon plus générale au club, puisqu'on a, au-delà de l'aviron, proprement dit, deux activités qu'on veut démarrer dans cette nouvelle Olympiade, qui sont l'Avifit. Donc l'Avifit, c'est en fait un mélange d'aviron et de fitness. Ça se passe autour de ce qu'on appelle un rameur ou ergomètre dans notre jargon. Donc c'est de l'animation, mais là qui est ouvert à tout public. C'est une autre pratique. Ça se fait dans la salle de muscu qu'on a au club. Et pour ça, il faut aussi des personnes pour encadrer. Donc ça, c'est aussi notre besoin d'avoir quelqu'un à terme pour encadrer ces activités qu'on va démarrer d'ailleurs dès septembre.
Et donc ça, concrètement, c'est les rameurs qu'on trouve dans les salles de sport, en fait.
Oui, mais avec des programmes spécifiques qui sont développés par la Fédération française d'aviron. Donc c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans les salles de muscu. C'est vraiment complètement différent. C'est encadré. Il y a de la musique. Et puis, ça, c'est des exercices à base d'ergomètre, etc. Donc ça, c'est une première activité. La deuxième, c'est ce qu'on appelle du team building. C'est aller chercher les entreprises pour leur proposer de pouvoir venir découvrir l'aviron et de mesurer quels sont les bienfaits du travail en équipe, puisque l'aviron, c'est principalement un travail en équipe, sinon le bateau n'avance pas. Donc il y a un parallèle à faire entre le management en équipe et l'aviron. Et là, on a des choses à proposer aux entreprises. Et c'est aussi un deuxième volet qu'on veut développer, qu'on va développer déjà dès cette année. Avec un accompagnateur, pouvoir aller beaucoup plus loin.
Alors, autre ambition du club, c'est de grimper en division dans la compétition. Actuellement, vous êtes à l'échelon le plus bas, la division 4, mais vous souhaiteriez atteindre la division 3 d'ici la fin de votre mandat. Alors, pourquoi cette volonté de devenir plus compétitif?
Alors, quand vous dites National 4, c'est exact. Il faut savoir qu'il y a environ 430 clubs d'aviron en France et qu'en National 4, nous sommes aujourd'hui environ 120e club de France, ce qui veut dire qu'on est malgré tout bien positionné parmi les...
Oui, c'est l'échelon le plus bas dans le national, du coup.
C'est ça.
Mais c'est ça.
Voilà. Donc les échelons les supérieurs, qui sont la National 1 et National 2, donc, ou Ligue 1 ou Ligue 2, si vous voulez, pour comparer un peu, sont aujourd'hui inaccessibles. En revanche, on est en train de travailler effectivement sur la façon, et on l'a bien analysé, la façon dont on pourrait, avec notre présence dans différents championnats en France, passer d'abord, améliorer notre classement National 4 et peut-être par la suite envisager la National 3.
Oui, parce que vous avez des bons éléments dans le club des licenciés qui atteignent déjà le compétitif. Vous avez parlé d'Hugo Barbotin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être qui pourraient vous permettre d'atteindre cet objectif?
Alors en fait, quand on parle de classement dans les divisions 1, 2, 3, 4, comme vous venez de le dire, on parle de classement sur un classement global, c'est-à-dire toutes catégories confondues hors senior et hors handi. Par contre, Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi montrer le club sur d'autres aspects, et notamment sur la partie handi. Alors aujourd'hui, on a un leader dans la partie handi, puisqu'on a Hugo, qui est effectivement aujourd'hui vice-champion de France en double récemment à Cazaubon. Là. Il est aussi, donc, et qui se prépare avec des ambitions pour arriver au JO en 2028. Donc c'est un gros programme. Et ça, c'est un fer de lance que l'on suit évidemment. Et on aimerait d'ailleurs, bon, j'en profite de cette interview pour faire appel à des gens qui auraient des problèmes d'handicap, mais qui pourraient faire de l'aviron, à venir nous voir pour voir ce qu'on pourrait faire avec eux, parce que c'est vraiment un sport, et Hugo pourra témoigner, qui lui a permis de se retrouver une nouvelle nature suite à la découverte malheureuse de sa maladie, qui fait qu'aujourd'hui, ben, il s'est investi complètement dans ce sport, et franchement, ça l'aide, ne serait-ce que même, ça l'aide dans son état physique. Donc alors, c'est un vrai sport aussi pour les handis. Des fois, on n'y pense pas, mais il faut le savoir, quoi. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est que l'aviron, c'est un sport qui n'est pas un sport traumatisant, contrairement à, alors je ne parle pas du foot et autres, mais du footing par exemple, on est assis, donc il n'y a pas de choc entre les articulations, c'est un sport complet, tous les muscles travaillent, 90% des muscles travaillent, donc c'est vraiment un sport qui amène un bienfait pour la santé. Donc ça, les gens ne le savent pas non plus, ça ne se voit pas quand on voit un bateau.
Alors, est-ce que vos bénévoles vous suivent dans cette direction que vous prenez pour le club ?
Alors aujourd'hui, oui. On cherche malgré tout à attirer, entre guillemets, de nouvelles compétences parmi les bénévoles, puisqu'en fait, avec un projet tel que celui qu'on a soumis, effectivement, il faut absolument qu'on arrive à structurer un peu mieux les différents postes sur lesquels on va agir. Et tout ça, c'est en cours d'étude. Hein. On est aidé par un consultant aujourd'hui, et avec des actions que l'on va mener pour un appel à candidature, toujours entre guillemets, puisqu'on est dans le débat dans le domaine du bénévolat, mais pour attirer des bénévoles qui s'ignorent, qui pourraient nous aider dans différentes tâches. Je pense notamment à la communication et surtout l'équipe des réseaux sociaux. Cette animation aurait besoin de bras supplémentaires et de compétences supplémentaires. Je ne parle que de ça, je pourrais parler d'autres domaines, mais effectivement, rechercher parmi nos rameurs des personnes qui aujourd'hui ne sont ou bénévoles ou qui ne le sont pas, et qui pourraient trouver un intérêt personnel à s'investir dans une tâche.
Eh bien, je vous remercie Yvon Godard et Frédéric Rougier, co-président de Le Mans Sarthe Aviron. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir été à notre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioalpa.com dans les infos de la rédaction. Sport en Sarthe revient vendredi 16 mai. Et d'ici là, rendez-vous lundi 12 mai pour C'est d'actu sur Radio Alpa, bien évidemment.